Bon, mais bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de nous apporter la parole ce matin. Et nous allons parler des faux dieux. Fais attention, moi je suis porté à m'accrocher un peu partout. Donc, les faux dieux. Lorsqu'on parle d'un faux dieu, bon, ça va être c'est un synonyme, là, faux dieu ou idole. Quand je vous parle d'une idole, à quoi est-ce que vous pensez?
Un chanteur.
Chanteur, oui, chanteur qui peut être une idole. Quelque chose qui remplace Dieu. Et ça peut être, on peut penser à un objet. On se souvient dans le... Ça va avancer. Hein? Pouvez-vous avancer le prochain PowerPoint, s'il vous plaît? Donc, si c'est le veau d'or dans le désert, le peuple juif a demandé à Moïse, pas à Moïse, mais à Aaron, construire un veau d'or parce que Moïse n'était plus là, il était parti. Et on dit, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous, qui va remplacer le vrai Dieu. On peut penser à ça, statue, idole. Mais dans le Nouveau Testament, lorsqu'on parle d'une idole, c'est pas quelque chose qui est visible ou qu'on va se mettre à genoux devant. C'est quelque chose qui va remplacer Dieu, comme quelqu'un a dit. Dans le Petit Larousse, la définition, c'est image ou représentation d'une divinité qui est l'objet d'un culte d'adoration. Donc, quelque chose qu'on va adorer, vénérer, qui va prendre la place de Dieu. Ça peut être quelque chose ou quelqu'un qui va prendre la place de Dieu. Dieu va tomber en deuxième. C'est cette chose-là qui va être sur le trône de notre vie. Et ça peut, il peut s'agir aussi d'une bonne chose, mais qui prend trop de place dans ma vie ou dans mes pensées. C'est quelque chose qui me procure plus de plaisir, plus de satisfaction que ma relation avec Dieu. J'aime plus ça que ma relation avec Dieu. Ça prend la place. Donc, par conséquent, je vais chercher cette chose-là au lieu de rechercher Dieu lui-même. Il y a des idoles ou des dépendances qui sont faciles à identifier. Supposément, si je suis dépendant de l'alcool ou de la drogue, donc c'est ça qui passe en premier dans ma vie, j'en ai besoin, toujours une nouvelle dose pour être heureux. Donc, c'est facile à identifier. Pornographie sur Internet, accro aux jeux vidéo, des choses qui peuvent prendre la place de Dieu. Ça, on sait que ça prend la place de Dieu. Mais il y a des choses qui sont moins évidentes. Les choses qui sont moins évidentes, et on va essayer de les identifier. J'en ai quatre. La première, c'est de chercher le pouvoir ou la gloire. La gloire personnelle, le pouvoir. Ça ne paraît pas, mais ça, dans le cœur. La gloire et le pouvoir. On va regarder un texte que j'ai ici dans l'Évangile de Luc. Chapitre 4, versets 5 et 8. Et c'est lorsque le diable a tenté Jésus. Ça, c'est la deuxième tentation. La première, il avait dit « change les pierres en pain ». La deuxième, on va le lire. « Le diable l'amena plus haut, lui montra en un instant tout le royaume du monde. » Ça va? Ah, OK. Il lui dit « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ce royaume. » Car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Si vous voulez, on va avoir un mot de prière avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on te remercie pour nous permettre d'être ici et de prendre ce temps à part pour scruter ta parole, pour regarder ce que tu as à nous dire, Seigneur. Et merci d'être ici avec nous. On te prie de nous parler d'une façon spéciale ce matin, de toucher nos cœurs et de faire, Seigneur, que tu demeures le seul qui est sur le trône de nos vies. Touche le cœur des gens qui sont ici comme tu as touché le bien. Amen. Ici, on voit que le diable a offert à Jésus la gloire du monde. Jésus, il avait la gloire en présence de son Père et il a renoncé à tout cela pour venir dans l'humilité, mourir pour nous, pour nous sauver. Ici, on voit que le diable lui montra tous les royaumes du monde. Il lui a montré tout ça, toute la gloire. Et il a dit à Jésus, « C'est à toi si tu veux m'adorer. » Donc, la gloire du monde, le désir d'être quelqu'un d'important aux yeux des autres, c'est une des pires tentations, sans qu'on le réalise. Parce que c'est ça qui pourrait peut-être nous donner une valeur, on croit. Et Jésus aurait pu obtenir cette gloire-là, la reprendre, sans passer par la croix. Jésus, donc le diable avait une tentation ici. Dieu a un plan pour Jésus, pour qu'il règne éventuellement, mais le diable aussi avait un plan. Il voulait Parce que si Jésus n'allait pas à la croix, ben Satan était détrôné. Mais Jésus a choisi, lui, de passer par la croix. Donc, il aurait pu éviter toutes les souffrances qui enduraient sur la terre et la honte et la souffrance d'être attaché à la croix, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait fait ça, où est-ce qu'on serait aujourd'hui? On ne serait pas ici, il n'y aurait pas d'église, on serait perdu pour l'éternité. Donc, son but n'était pas de devenir roi sur la terre à ce moment-là, mais de nous sauver. Et comme on dit souvent, ce ne sont pas les clous qui retenaient Jésus à la croix, parce qu'il aurait pu descendre, c'était son amour pour nous qu'il retenait. Donc, le diable a voulu détourner Jésus. Il lui a monté tous les royaumes et dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir. » Donc, le but du diable, c'était de détourner Jésus. Et le plan de Dieu était que Jésus règne sur l'univers, mais pas tout de suite. Nous lisons dans Apocalypse, chapitre 11, verset 15, « Il règnera au siècle des siècles. » Donc, Jésus n'a pas pris de raccourci pour régner, et son règne aurait été vraiment temporaire s'il avait accepté la gloire du monde. Donc, cette gloire que le monde nous offre, le diable l'a utilisée pour tenter Jésus. Okay? Et Jésus, en abandonnant le pouvoir, en n'acceptant pas le pouvoir que l'ennemi lui offrait, est devenu l'homme qui a eu le plus d'influence sur la terre dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas un homme qui a eu plus d'influence que Jésus, en mourant sur une croix et en ressuscitant. Et le diable, lorsqu'il nous tente, lorsqu'il a tenté, ben, Dieu avait dit à Adam et Ève, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le diable, quand il a tenté Ève, il a dit, c'est pas vrai. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Donc, si vous désobéissez, vous allez être comme des dieux. Donc, plus de pouvoir, plus d'autorité, plus de contrôle, plus de pouvoir. Donc, c'est un piège du diable. Un autre verset qui nous parle encore de pouvoir. Dans Jean 5, 44, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens. Il leur dit, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul? » Donc, Jésus reprochait aux pharisiens de chercher une gloire, lequel qui ne serait pas le meilleur entre eux, le plus grand, le plus fort, le plus de contrôle parmi eux. Donc, c'est comme inné chez l'homme d'être le plus grand, le plus fort, de contrôler. OK? Au lieu d'accepter nos limites humaines, on a une tendance souvent à vouloir avoir du pouvoir, à contrôler les autres et à contrôler nos vies. C'est moi qui décide comment je vis. Et souvent, les gens ne viendront pas à l'Évangile parce qu'ils veulent garder le contrôle sur leur vie. Ils ne veulent pas donner le contrôle à Jésus. C'est ça qui va aller. Tu vois, les pharisiens, Jésus dit, vous ne pouvez pas croire, puis vous ne voulez même pas parce que vous allez être obligé de renoncer au contrôle que vous avez sur votre vie. Lorsqu'on accepte Jésus comme notre sauveur, qu'on le reçoit dans notre vie, on lui remet le contrôle de notre vie. Et c'est beaucoup ça. C'est beaucoup ça. Il le prend. Et c'est à ce moment-là qu'il peut venir. C'est pour ça que Jésus leur disait, vous ne pouvez pas croire si vous voulez garder le contrôle pour vous, si vous voulez avoir du pouvoir. Donc, c'est l'ego qui prend la place qui est réservée à Dieu. La grandeur selon Dieu, la définition, c'est de servir. Et la grandeur selon le monde, avoir du pouvoir et se faire servir. Tout est viré à l'envers. Donc, grandeur selon Dieu, servir. Grandeur selon le monde, avoir du pouvoir et se faire servir. Donc, premier Dieu de notre culture qui se cache, qu'on ne voit pas, c'est le désir d'avoir du pouvoir, du contrôle. Deuxième Dieu, c'est l'argent. L'argent. Moi, j'ai ma petite caisse que j'ai ouverte, j'ai pris une photo. l'argent, la soif de posséder. Soif de posséder l'argent. Ça vous fait trop saliver, je vais l'enlever. Jésus, dans Luc, chapitre 12, verset 15, puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Je vais faire une demande spéciale. Mon épouse, es-tu là? Tu m'apporterais-tu ma bouteille d'eau que j'ai oubliée au pied de ma chaise? Donc, Jésus leur parlait ici, il dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité. » La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Merci beaucoup. Et qu'est-ce qui nous frappe là-dedans, c'est qu'il dit, nous, il y a le mot « attentivement ». Attentivement, ça veut dire porter une attention spéciale à la cupidité. Dans la traduction, ça c'est la traduction de Bible à la Colombe, dans la traduction Louis II, il dit « gardez-vous avec soin ». On pourrait dire en anglais « watch out », surveillez la cupidité. Donc, c'est comme Jésus disait, il ne dit pas « ne soyez pas cupides », il dit « attention, il y a un danger que vous ne voyez pas, c'est d'avoir le désir d'avoir plus d'argent. » Ça paraît pas, ça, c'est dans le cœur. J'en veux plus, je me sécuriser, je me donner de l'importance. Donc, et notre société nous fait miroiter que l'argent et les biens matériels procurent le bonheur. Hein? Mon père nous parlait souvent qu'il aurait aimé être instruit pour être riche puis pour être heureux. Il n'aurait pas été plus heureux, mais c'est un mirage, OK? Un mirage. Donc, se surveiller soi-même parce qu'il y a un danger qui n'est pas évident. Et il est possible de ne pas s'en rendre compte. Donc, gardez-vous attentivement de toute cupidité. Un auteur, Tim Keller, dans son livre qui s'appelle « Counterfeit Gods », ça veut dire les faux dieux ou les dieux contrefaits, il dit ceci. « L'argent est l'un des faux dieux les plus communs qui soient. Quand il prend le contrôle de votre cœur, il vous rend aveugle de ce qui vous arrive. » L'argent aveugle, pas juste l'amour, l'argent. Il vous rend aveugle de ce qui vous arrive. Il vous contrôle au moyen de vos anxiétés, de vos désirs. Il vous conduit à le placer avant toute autre chose. Donc, l'argent peut donner de l'anxiété. J'en ai pas assez, j'en aurais pas assez, j'en veux plus. Et vos désirs, en avoir plus. Donc, il nous conduit à le placer avant toute chose, l'argent. C'est ça qui nous sécurise. Aussi, on peut se définir sur la base de ce qu'on possède. Donc, combien d'argent je possède, combien de matériel je peux consommer. Vous avez déjà entendu dire, ma mère disait ça des fois, lui là, ce gars-là, il vaut 2 millions. Lui, il vaut 10 millions. Ouais. Donc, on évalue des fois les gens à ce qu'ils ont et non pas à ce qu'ils sont. OK? Donc, la valeur personnelle ne devrait pas être basée sur la richesse, mais malheureusement, humains comme nous sommes, nous basons cela sur la richesse. Et quelqu'un qui base sa valeur sur l'argent, s'il perd tout, il n'est plus rien. Et lorsqu'on a eu la crise financière en 2009, il y a des gens qui se sont suicidés. On raconte l'histoire d'un homme au volant de son auto de luxe, là, Lamborghini, là, qui s'était suicidé. Il venait de tout perdre. Je ne sais pas si la voiture, il l'aurait perdu, mais là, il s'est suicidé parce que lui, le but dans la vie, c'était d'en avoir toujours plus. Et là, il en avait perdu une grande partie de ses biens. Donc, nos désirs et nos émotions sont contrôlés, peuvent être contrôlés par notre compte de banque. Okay? Donc, c'est le contraire. L'argent devient... On croit qu'avec l'argent, on va contrôler, mais c'est l'argent qui nous contrôle. Si on regarde notre verset à la fin, Jésus dit « La vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » C'est un peu ça que je vous disais. On n'évalue pas quelqu'un à ce qu'il possède. Donc, votre vie ne dépend pas à la grosseur de votre maison, de votre taux, compte de banque, etc. Ça n'a aucune commune mesure, là. Donc, et dans Colossiens, chapitre 3, verset 5, l'apôtre Paul nous rajoute quelque chose. Vous pouvez avancer. Merci. Faites donc mourir votre nature terrestre. L'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Ici, on a plein de choses à ne pas faire, mais la cupidité, l'apôtre Paul l'a comme qualifié. Les autres, ils ne disent pas que c'est une idolâtrie, mais la cupidité, ça, c'est une idolâtrie. Il l'a gardé pour la fin, le dessert, puis il l'a qualifié. Cupidité, désir de posséder, désir de s'enrichir, c'est une idolâtrie parce que ça prend la place de Dieu. Ceux dont l'argent est le Dieu, ils font trois choses. Premièrement, ils aiment l'argent. Ils aiment ça, l'argent s'en prend. Ils rêvent, ils calculent comment faire plus. Ils parlent aux choses qu'ils pourraient acheter. Ils en parlent. Ils aiment l'argent. Ils en parlent beaucoup. Deuxième chose qu'ils font, c'est qu'ils mettent leur confiance dans l'argent. Ils s'appuient dans l'argent. Donc, ils pensent qu'ils auront le contrôle sur leur vie, qu'ils seront en sécurité s'ils ont beaucoup d'argent. Et quand j'étais notaire et que je réglais des successions, Et je remarquais que les veuves les plus insécures étaient celles qui avaient le plus d'argent. Celles qui n'avaient rien, il y avait jamais rien eu, on ne manquera pas. On n'a pas manqué. Mais celles qui en avaient plus étaient insécures. Comment on va placer ça? On peut comprendre aussi qu'ils sont insécures. Je ne veux pas les juger. Mais plus il y en avait, plus ils étaient insécures. Troisième chose que font ceux qui veulent avoir de l'argent, c'est qu'ils servent l'argent. Ils deviennent des serviteurs. Donc, ils ont besoin d'argent pour assurer leur sécurité physique. Ils peuvent plus matérielle, ils peuvent plus s'en passer. Ils doivent la rechercher continuellement. L'argent devient une priorité dans leur pensée. Ça les oblige à travailler plus fort. Donc, ils servent l'argent. Et il y a un verset ici où Jésus parle d'être au service de l'argent. Un autre point. Matthieu 6, 24. « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, c'est ici le Dieu de l'argent. C'est le Dieu de l'argent, Mammon. Donc, vous ne pouvez pas servir les deux. Vous avez à choisir votre maître. Okay, je pense que c'est Simon qui nous disait ça. On n'a pas le choix, on doit choisir notre maître. Donc, soit l'argent qui va nous sécuriser, qui va nous donner un sens, entre guillemets, à notre vie, qui va faire qu'on va avoir du bonheur, entre guillemets, ou choisir la plénitude que nous offre Jésus-Christ, Dieu. Donc, on ne peut pas servir les deux à la fois. Jésus dit, faites un choix. Et Jésus utilise un mot ici, là, vous ne pouvez servir, le mot servir, là, c'est le service qui était rendu à un roi. L'esclave qui devait servir le roi, pratiquement l'adorer, faire tous les caprices du roi. C'est dans ce sens-là qu'est utilisé dans l'original le mot « servir ». Donc, si je vis pour l'argent, je ne suis pas juste son serviteur, je suis son esclave, l'esclave de l'argent. Par contre, si je réalise que ma valeur personnelle et ma sécurité est en Dieu, à ce moment-là, l'argent ne pourra plus me contrôler par les inquiétudes, par l'insécurité, par le désir de posséder. Parce que c'est ma sécurité va être en Dieu. Et c'est lui qui va pouvoir à mes besoins. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prend soin de lui-même. Et Dieu, s'il est au centre de ma vie, il va détrôner le pouvoir de l'argent qu'elle a sur ma vie. Donc, Dieu ou Mammon, pas les deux. Par contre, l'argent peut devenir notre serviteur. On peut l'utiliser pour faire du bien. Donc, c'est pas mauvais, l'argent. C'est bon, dans le sens, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est un outil qu'on peut utiliser pour donner, pour faire du bien, et tout ça. OK? Et l'utiliser sainement. Dieu nous en donne ce qu'il faut pour vivre. OK? Autre PowerPoint. Je pense que le mien marche pas, c'est en arrière qu'il faut marcher. Je peux vous faire avancer. Le succès. Donc, ici, c'est un monsieur qui veut toujours augmenter dans l'échelle sociale. Et ses cousins de la gloire aussi, ça se rapproche, ça s'entremêle. La gloire, c'est avoir du contrôle et tout ça. Succès, c'est être quelqu'un puis avoir de la valeur. Donc, avoir de la valeur du succès. Et notre culture contemporaine nous incite à chercher ce faux Dieu qui est le succès. Une autre citation de M. Tim Keller, il dit « Notre société met beaucoup de pression sur les individus pour qu'ils prouvent qu'ils valent quelque chose à travers l'accomplissement personnel. Ce n'est pas suffisant d'être un bon citoyen ou membre d'une famille. Tu dois gagner, tu dois être au top pour montrer que tu es l'un des meilleurs. Tu dois gagner, être toujours le meilleur. » Et c'est une valeur, c'est quelque chose qui est valorisé beaucoup dans notre société. Autrefois, c'était plutôt être une bonne personne, bon père de famille, bonne mère et tout ça. Mais aujourd'hui, une des valeurs, c'est d'être le top, être le premier, le meilleur. Et il y a des gens qui se pensent qu'ils sont rien, à moins d'être le top. Je donne un exemple. La très célèbre chanteuse pop Madonna, elle a du succès, et voici comment elle décrit la séduction du succès. Elle dit qu'elle a une volonté de faire. Elle est vraiment combative et tout ça. Sa principale motivation, c'est de combattre l'horrible sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être médiocre. Donc, elle veut avoir du succès pour que quand les gens l'applaudissent, quand les gens elle devient l'idole des gens. Là, elle se sent quelqu'un. Et si elle n'a pas de succès, elle se sent médiocre. Je ne vais pas te voir dans son enfance, qu'est-ce qui s'est passé, là. Mais c'était... Donc, et là, lorsqu'elle a atteint le but du succès, elle se sent encore... Lorsqu'elle l'a atteint, elle se sent encore médiocre. Et ça en prend encore. Et elle dit, j'ai toujours besoin d'être adulé, d'être une idole, et je crois que ça finira probablement jamais, parce que je me sens... J'ai de la valeur juste quand j'ai beaucoup, beaucoup de succès. Et quand je suis rendu là, j'en ai besoin encore. Et sa drogue, c'est comme une drogue, hein, le succès est comme une drogue, et elle a constamment une nouvelle dose pour se sentir bien. Elle ne peut pas s'en passer. Quelque chose, hein? Et beaucoup de gens l'envient. Donc, sa principale motivation, c'est la peur de ne pas avoir de valeur. Pas avoir de valeur. OK? Si le succès est mon idole, il est fort probable que le travail aussi soit une idole ou un faux dieu. Parce que pour avoir du succès, il faut bûcher. Il faut bûcher, il faut travailler fort. Alors, je dois travailler tellement que ça peut nuire à ma santé et à ma famille. Ça ne veut pas dire de ne pas travailler, il faut travailler, mais chaque chose a sa place et à la bonne place. Moi, j'ai fait des études, et le but d'aller aux études, c'était pour avoir un meilleur salaire. Donc, combler sécurité matérielle. Et c'était aussi pour être quelqu'un. Ah, lui est diplômé, et bon, il a une profession. Donc, dans la société, c'est comme bien vu. Donc, succès égale valeur. Ça me donnait de la valeur. Avant que je sois chrétien. Quand je suis devenu chrétien, j'ai arrêté, coupé complètement l'université. J'ai continué par après. Parce que c'était pas mauvais. C'était mon attitude qui était pas bonne. OK? C'est bon dans l'université, d'avoir une profession, un travail. On a besoin pour faire des sous pour notre famille. On a besoin d'être quelqu'un, faire quelque chose dans la société. Il faut juste regarder passer le train. Il faut travailler. Mais qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que on le fait juste pour avoir de l'argent ou plus d'argent ou pour être quelqu'un? Moi, je suis avocat. Moi, je suis médecin. Moi. Donc, pour notre valeur. Donc, à ce moment-là, c'est pas bon. Un autre faux dieu, et vous en douterez pas, l'autre diapositive, l'amour romantique. L'amour romantique. Pourtant, c'est beau, l'amour. C'est vrai que c'est beau. C'est créé par Dieu et c'est Dieu qui l'a voulu. C'est Dieu qui a créé ça. Qu'un homme et une femme, là, oh, à un moment donné, il arrive quelque chose entre les deux, là, puis c'est comme, on peut plus se passer l'un de l'autre. OK? La majorité des chansons populaires ont pour thème l'amour. Tomber en amour ou une peine d'amour. C'est tellement de chansons. C'est Charles Aznavour, lui, qui s'est rendu populaire en faisant des chansons sur des peines d'amour. Rares sont les films sans histoire d'amour. Vous connaissez le film Le Titanic? Donc, le réalisateur a tout ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai. Il a étudié l'histoire et toute l'histoire du Titanic et la reproduction du bateau et tout ça. Une seule chose qui est fausse, c'est l'histoire d'amour entre Jack et Rose. Ça vient, c'est l'histoire romancée qui est mise là. Et s'il y avait juste l'histoire du Titanic qui a coulé, ça aurait été un documentaire. En même temps, cette histoire-là, c'est wouh! Savoureux. Comme dirait Benoît, c'est juteux. Donc, parce que l'histoire d'amour, ça nous rejoint tous. C'est vendeur. OK? Ça a été créé par Dieu et c'est bon. Encore là, le diable peut l'utiliser pour que ça devienne notre Dieu. Et pour certaines personnes, le fait d'être en amour avec quelqu'un absolument, c'est ça qui donne un sens à leur vie. C'est ça qui leur dit « Je suis quelqu'un. » Ils m'aiment. Ils sentent vraiment aimer. OK? Et certaines personnes vont d'une relation amoureuse à une autre pour combler ce besoin-là. Parce que si c'est l'amour superficiel, là, un moment donné, quand on découvre la vraie personne, les écailles des yeux tombent, là, oups, on se sépare. Parce que dans le fond, c'est un amour qui était superficiel. Et là, on s'en prend un autre. Et des gens vont d'une relation à l'autre pour trouver cet amour-là, ce sentiment d'être aimé et d'aimer. Sentiment d'être apprécié. Et c'est très puissant dans le cœur humain. Et ça peut dominer nos vies. Si l'amour est une idole dont je ne peux pas me passer, l'amour romantique, je peux me faire exploiter ou faire abuser de moi. Et vous avez entendu parler d'histoires de femmes qui endurent de rester avec n'importe qui, même quelqu'un qui va les abuser, parce qu'ils ont peur de perdre leur partenaire. Pourquoi est-ce qu'elle reste avec? Hein? On entend ça souvent. Il la bat, puis la personne va rester. C'est comme... C'est un besoin qui est là. Donc, si l'amour romantique, cet attachement à une personne du sexe opposé, est ça notre Dieu, on va endurer n'importe quoi, parce qu'on va devenir esclave de ce Dieu-là. Et il y a des gens qui vivent des relations abusives à cause de cela. Je vous raconte une histoire d'une belle jeune fille. On dit le seul malheur qu'elle avait, c'était d'être née belle. Elle était très belle. Sauf qu'en grandissant, elle a commencé à réaliser que le pouvoir que ça lui donnait d'être belle, elle pouvait, à cause de son attirance physique, sa beauté, les hommes avaient un regard spécial sur elle, avaient des privilèges. Donc, elle a utilisé sa beauté physique pour manipuler les autres, pour avoir ce qu'elle désirait. OK? La petite princesse. OK? Mais elle s'est fait prendre dans son propre jeu, parce que elle a commencé à réaliser que le seul pouvoir qu'elle avait, ou tout ce qui lui donnait de l'importance, c'est lorsque un homme est en amour avec elle. Et lorsqu'elle ne vivait pas cet amour-là d'un homme vis-à-vis elle, elle est tombée. Donc, elle allait d'une relation à l'autre pour retrouver cet amour-là, l'amour romantique. Et jusqu'à un certain point qu'elle est tombée dans une relation qui était abusive, l'homme était abuseur, et elle ne pouvait plus s'en séparer, parce qu'elle ne voulait pas perdre cet amour-là, okay, cet attachement-là. Donc, elle s'est fait prendre dans son propre jeu. C'était ça son Dieu, cet amour romantique-là. Il y a d'autres dieux qui sont... Oh, c'est le mien, ça, on va le passer. Il y en a un autre, on peut mettre la deuxième diapositive, on va enlever les cœurs. Les autres faux dieux. Le désir de plaire. Ça, c'est le mien. Là, ben, je m'en trouve un, mais c'est sûr qu'il est là, il est gros. Désir de plaire, c'est ma valeur dépend de ce que les autres pensent de moi. Fait que si les autres pensent que je suis pas bon, je me sens pas bon. OK? Donc, alors que c'est Dieu, ma valeur est en Dieu, non pas dans ce que les autres pensent. OK? Donc, quelqu'un qui a le désir de plaire va faire les choses en fonction de l'opinion que les autres auront de lui. Donc, c'est une tendance. Tendance qui revient. Je dois lutter avec ça. Ne pas faire les choses en fonction de ce que l'opinion des autres envers moi. Donc, ça, c'est un autre faux dieu. Ensuite, il y a des dieux qui procurent un soulagement temporaire. J'en ai parlé au début. Eux sont plus faciles à identifier. L'alcoolisme, la drogue, la pornographie sur Internet, l'excès dans les jeux vidéo. J'ai rencontré au camp Patmos un jeune qui était accro aux jeux vidéo. Il a été en thérapie même. Okay? Parce que ces jeux-là, ça donne comme des récompenses. Plus t'en fais, plus c'est le fun. Donc, on peut être accro. Ces choses-là, on sait que c'est plus évident. Pourquoi on peut devenir accro à ça? C'est que Dieu nous a créés pour être heureux et la vie n'est pas rose. La vie est difficile, on a le mal de vivre et on veut se faire un petit plaisir pour atténuer la souffrance, un petit plaster sur le bobo pour enlever la souffrance qui nous accapare. Et comme j'ai déjà dit dans mes prédications sur le ciel, Dieu nous a créés pour être heureux, pour vivre dans un paradis. Et on l'a perdu, ça. On va le retrouver. Mais sur Terre, on ne l'a pas, malheureusement. Donc, la vie n'est pas facile et on veut apaiser le mal de vivre. Et on veut faire notre propre bonheur. Quelqu'un qui prend sa seringue puis se met l'héroïne ou la cocaïne, momentanément, il fait son propre bonheur. Il pense avoir le contrôle. Sauf qu'éventuellement, il le perd le contrôle et sa santé en subit les conséquences. Donc, pouvoir de se donner du bonheur quand il en a besoin. Donc, la chose qui procure un bonheur passager prend la place de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas bien, là, l'abus d'alcool, l'abus de drogue, toutes ces choses-là. Et je pense avoir le contrôle de mon bonheur, mais je deviens dépendant, même si ça adoucit la souffrance momentanément. Et il y a aussi des bonnes choses qui deviennent mauvaises s'ils sont prises avec excès. Manger. Il faut manger. Si je vous dis que moi j'ai un problème avec ça, vous ne me croirez pas. Jamais eu. Mais ça peut être d'autres choses. Ça peut être un sport. Un sport, ça c'est mon Dieu. Moi, la pêche. La chasse. J'aime la chasse en passant. Mais quand j'étais non-chrétien, c'était mon Dieu, ça, aller dans le bois, aller à la chasse et tout ça. Quand je suis devenu chrétien, j'ai tout coupé ça. pas parce que c'était mauvais, mais c'est parce que ça prenait trop de place dans ma vie. Puis graduellement, c'est mon épouse qui me dit, Yvan, tu fais rien de fun, là. Commence à faire quelque chose que t'aimes, là. Tranquillement, je vais commencer. Et là, j'y vais avec modération. OK? C'est comme la bière, elle avait tout coupé. 15 ans, 10, 15 ans. Plus rien. Quand je chantais ça, ça me remettait dans le passé, juste l'odeur, là. Mais graduellement, bon, une bière par semaine, pas si pire, hein, vous me pardonnez. Ça fait qu'on réapprivoise les choses qui étaient autrefois des excès et que maintenant on a plus de problème de contrôle aujourd'hui. Comment reconnaître ces faux dieux dans ma vie? Lorsque je vais voir le médecin puis je souffre, j'ai une maladie, le médecin va regarder les symptômes pour savoir qu'est-ce que j'ai. J'ai plein de symptômes, mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai. OK? Et je vais surtout vous parler ici des sucres, pas les sucres qui sont évidents, là. Ça, si j'ai un problème de drogue, c'est évident. Mais au niveau de la gloire, soif, l'argent, succès, amour romantique, qu'est-ce qui va me permettre de déterminer? OK? Donc, qu'est-ce qui va me permettre de voir si je tombe dans une de ces idoles-là? C'est ce à quoi je pense sans effort quand rien ne demande mon attention. Quand mon esprit, même quand j'entends de prier, quand mon esprit est libre, ce à quoi je pense le plus souvent, qui vient toute seule. J'ai pas besoin de dire, il faut que je pense à l'argent. J'ai oublié d'y penser un matin, là. Tu sais? Faut que je pense à plaire aux autres, là. J'ai oublié d'y penser. À quoi j'aime rêver? Que j'aimerais qu'il me ferait, qui serait bon pour moi? Qu'est-ce qui occupe mes pensées? Est-ce que je fais des scénarios potentiels dans ma tête au niveau de l'avancement de carrière? Si j'étais promu, tel salaire, les gens vont me penser, waouh, lui est rendu là, tel cadre, tel niveau. Est-ce que je fais des scénarios concernant les biens matériels que je pourrais acquérir? Tel bien, pour être quelqu'un. Concernant le style de vie que j'aurais si j'étais riche. Ou ça peut être des scénarios concernant une personne en particulier avec qui, j'aimerais avoir l'amour romantique. Mais je parle pas d'un rêve, mettons, penser qu'est-ce que je ferais si je gagnais 1 million à l'Auto-Québec, on a tout fait ça. T'sais, faut que je gagne, non. On s'est tous dit, si j'avais 1 million, qu'est-ce que je ferais avec? On s'est déjà pensé à ça. Mais c'est pas comme penser juste à ça, que ça vienne souvent. Mon père avait ça dans la tête, lui. Si je gagne 1 million, il est mort pauvre. Il a dépensé, il a enrichi l'Auto-Québec. Il y en a que ça marche pas tout le monde. Est-ce qu'il y a quelque chose qui occupait votre pensée pendant que je parlais? Y a-t-il quelque chose en dedans de vous qui a parlé plus fort que moi? Parce que j'ai parlé de l'amour, j'ai parlé de l'argent, succès, etc. Peut-être que vous êtes resté accroché là, vous n'êtes pas encore revenu là. Il partait encore. Vous êtes accroché là, c'est peut-être ça. OK? Donc, aussi une autre façon de voir où est mon Dieu, c'est où est-ce que je dépense mon argent? Mon offrande? c'est des biens matériels ou n'importe quoi, plein de loisirs, je le sais pas. Mais où vous dépensez sans compter, où vous avez la difficulté à vous limiter. OK? Et Jésus dit dans Matthieu, chapitre 6, verset 21, « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Donc, ce que tu cherches, ce que tu vas avoir, ton cœur va suivre. Okay? Une autre façon de voir, de dénicher le faux Dieu, c'est qu'est-ce qui me rend acceptable aux yeux des autres? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la valeur? Qu'est-ce qui fait que je suis à la hauteur? Que je suis aussi important que les autres? Je suis pas nono. Okay? Donc, qu'est-ce qui me rend acceptable? Être riche? Si je suis riche, comparé aux autres, va avoir de la valeur. Avoir du succès, avoir une profession, réussir en affaires, être populaire. Je vais être populaire, absolument. Il faut que les gens me connaissent. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis. J'ai soif de ça. Qu'est-ce qui me rend acceptable, c'est d'avoir du contrôle. Moi, j'ai le contrôle, sur ma vie, sur la vie des autres. Et c'est ça qui me donne de la valeur. Ma propre valeur. Ou qu'est-ce qui me donne de la valeur, c'est être aimé de tout le monde. Ne pas déplaire. Ça, c'est mon cas. Okay? Donc, être aimé de tout le monde, ne pas déplaire. Si les gens m'aiment, ça peut être mon Dieu. Okay? Donc, j'ai à lutter contre ça. Donc, ces questions-là vont révéler si Dieu est à 100% sur le trône de votre vie ou s'il y a un autre Dieu qui lui fait compétition. Laissez-moi vous dire que on en a tous des faux dieux dans notre vie. On est tous à combattre avec ça. Comment s'en débarrasser? La suite dans mon prochain message qui s'appelle « Mission impossible ». On va en profiter. Alors, il est juste 11h moins 10, on va continuer. Fait que là, c'est mon deuxième message. Comment s'en débarrasser? Première chose, c'est admettre mon incapacité à résister par mes propres forces. Ah oui. Admettre que je suis pas capable de m'en débarrasser. Et je ne peux pas enlever une idole dans ma vie en disant « c'est pas correct » puis en essayant par mes propres forces de vivre autrement. Parce que mes pensées, j'ai pas de contrôle, ça vient tout seul, puis j'ai des soifs, des passions qui sont là, j'ai de la misère. Et le péché va revenir à la moindre occasion. Vous êtes dans une piscine, vous avez un gros ballon, vous le tenez dans le fond de l'eau. Si vous le lâchez, il va rester là, hein? Il va monter. Donc, c'est un peu comme ça. De mes propres forces, je peux essayer, oui, l'extérieur, puis pendant quelques minutes peut-être, mais ça va revenir très, très, très vite. L'idole ne peut pas être enlevée, elle doit être remplacée. Remplacée. Parce que quand on l'enlève, ça fait un vide. Il faut la remplacer, ça ne met pas autre chose. C'est comme si vous enlevez une mauvaise herbe, une mauvaise plante, puis vous ne la remplacez pas, il va pousser d'autres. OK? Parce que là, il va y avoir de la place. Quand il y a de la place, il faut qu'on mette quelque chose. Il faut la remplacer. Tu donnes un exemple de la belle fille tout à l'heure qui s'était fait prête à prendre son propre jeu, si bien qu'elle était dans une relation abusive. Supposément qu'elle va voir le conseiller. Le conseiller lui dit, faut que tu le laisses, faut que tu arrêtes d'avoir besoin de l'amour d'un homme pour être bien, absolument. Peut-être tu devrais faire toutes nos études, avoir une carrière, une profession, ça va donner la valeur. Là, dans le fond, il l'a remplacé. OK? Bon, elle passe d'une idole à une autre. OK? Donc, elle l'a remplacé, mais pas par quelque chose de nécessairement bon. C'est pas mauvais d'avoir une carrière, mais si c'est ça qui me donne la valeur, c'est pas bon non plus. OK? M. Tim Keller, il disait, « Le cœur humain est en vérité une usine qui produit des idoles. » Il n'est pas encourageant. « Y a-t-il un espoir? » Oui, si nous commençons à réaliser que les idoles ne peuvent pas seulement être enlevées, elles doivent être remplacées. Ce dont nous avons besoin, c'est une rencontre vivante avec Dieu. Rencontre vivante avec Dieu, pas juste de l'intellect, vivant. Donc, comment s'en débarrasser? Cherchez les choses d'en haut. Prochain PowerPoint, s'il vous plaît. Colossiens 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. » Donc, il y a un « si » ici. Donc, ça veut dire, puisque, étant donné que vous êtes ressuscité avec Jésus, ce serait normal que vous cherchiez les choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ et vous ne cherchez pas les choses d'en haut, c'est pas normal. Et ressuscité avec le Christ, c'est quelque chose, ça? C'est une nouvelle vie. On était mort spirituellement. On a ressuscité avec Jésus comme lui est sorti du tombeau. Et on est une nouvelle personne. Et c'est normal que dans cette nouvelle personne-là spirituelle qui vit en Jésus, qu'on recherche les choses d'en haut, les choses spirituelles. Pourquoi? Parce que Christ est là. On ne recherche pas dans le vide, là. Les choses d'en haut, là où Christ est assis. Donc, c'est rechercher les choses de Jésus, les choses de Dieu. Il n'y a pas ça les choses d'en haut, mais c'est les choses de Jésus. OK? Ressuscité. Chercher, ça veut dire être attiré par les choses d'en haut. Est-ce que je suis attiré? Au début de ma vie chrétienne, ça allait de soi. On lisait notre Bible, on dévorait, on allait, on manquait pas une réunion. C'est quasiment péché pour nous de manquer une réunion. Et on voulait toujours être là, on avait soif, chercher les choses d'en haut. Avec le temps, on dirait que ça diminue. Mais le Seigneur nous appelle à nous reconsacrer, revenir à lui. Donc, chercher. Réaliser toute la grandeur et la profondeur de ce que Jésus a fait pour moi à la croix. C'est pas rien d'être ressuscité avec lui. Donc, chercher les choses d'en haut, c'est aussi apprécier tout ce qu'il a fait, se reposer sur ses promesses, se tourner à lui dans l'adoration, ici et chez nous, dans le lieu secret. Lire la parole, parce que si on cherche les choses d'en haut, on va lire la lettre que Dieu nous a écrite, lettre d'amour de Dieu. Donc, Jésus, si on cherche les choses d'en haut, Jésus va devenir plus beau, plus grand, plus attirant que notre idole. C'est ça que je veux dire remplacer. Jésus va être plus, je dirais, le fun, mais plus, va nous procurer plus de joie que mon idole. Et Jésus me récompense, alors que l'idole me rend esclave. Si je tombe, Jésus me relève, il me restaure, il m'aime. Mon idole, si je la sers pas bien, si je fais faillite, ça me laisse tomber. Si mes amis m'aiment plus, si j'ai plus de succès, si ça ne va pas bien dans ma carrière, aucun pardon. Mais Jésus, si jamais je tombe, il me relève. Et j'ai une récompense céleste. OK? L'autre citation de M. John Eldredge, dans son livre « L'indomptable », il dit « Le croyant est en danger spirituel s'il se permet de vivre, peu importe la longueur de temps, sans goûter à l'amour de Christ. » Donc, il dit qu'on est en danger si on vit sans goûter à l'amour de Christ. Pas juste le savoir ici, savoir qu'il nous aime, le goûter. Et par son esprit, l'esprit qu'il nous a donné, Jésus est capable de nous montrer qu'il nous aime, nous faire ressentir l'amour de Jésus, pas juste le savoir intellectuellement. Il continue, « Quand Christ cesse de remplir le cœur avec satisfaction, notre âme va aller en silence chercher d'autres sources d'amour. » Donc, si Jésus n'est pas là, notre cœur, il a besoin d'amour, il a besoin d'être aimé, il a besoin d'être sécurisé, il a besoin de confort. Donc, comprendre tout ce que j'ai en Christ, tout ce que je suis en lui, et tout ce qui m'attend, tout ce qui m'attend en lui. Jésus m'aime, il a tout accompli pour moi, et j'ai pas besoin de réaliser de grandes choses pour être quelqu'un. C'est pas, Jésus ne m'aime pas en fonction de ce que je fais, mais en fonction de ce que lui a fait pour moi. Et je suis une créature qui le fait et qui l'aime. Donc, j'ai plus besoin de chercher le succès pour me guérir de mon sentiment de d'inutilité ou ne pas être à la hauteur ou d'insignifiance. Ou j'ai pas besoin de gloire, d'argent pour donner un sens à ma vie. Le Dieu du succès, on doit le remplacer. Ici, on a cherché les choses d'en haut, ensuite il dit « Pensez à ce qui est en haut ». Donc, il en rajoute. Le fait de les chercher, c'est de penser. Est-ce que ça occupe mes pensées, les choses de Dieu? Pas toujours le cas. Mais c'est ça qu'il demande ici. Et ce sont des impératifs. Penser et chercher. L'autre PowerPoint, s'il vous plaît. Maintenant, mon pouce. C'est la suite, là. On a lu Colossiens 1-2, verset 3. « Quand vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Comment ça, vous êtes morts? Le verset d'en haut, ça vient dire « Vous êtes ressuscités. » Ouais. OK. Qu'est-ce qui est mort? C'est notre ancienne vie. Notre ancienne vie était clouée à la croix avec ses péchés. Mort. Et on a ressuscité avec Jésus, parce que lui est ressuscité d'entre les morts. On est comme identifié avec lui, on a une nouvelle vie, on est ressuscité avec Jésus. Donc, cette mort-là, donc, c'est la mort de notre ancienne vie. Donc, puisque vous êtes ressuscité, nouvelle vie, puisque vous êtes mort, ça c'est la mort de l'ancienne vie. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est plus dur à comprendre, c'est comme si notre vie était fusionnée à Jésus. Je ne vis que par lui. Galates 2, 20, je crois. Car si je vis, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Fusionné avec lui. Je me fais un. Et c'est pour ça qu'on a le verset 4. Quand le Christ, votre vie, hein, notre vie, c'est Christ. Quand Christ, votre vie paraîtra, parce qu'il va revenir, alors vous paraîtrez aussi avec lui. Wow! Dans la gloire. Quand Christ va se manifester, « Hey, c'est moi, le maître de l'univers. » On va être avec lui à ses côtés. et on va avoir la même gloire que lui. Merveilleux, parce que on est en lui. On est, je dirais pas qu'on est lui, mais on fait partie de lui. Verset 5, faites donc mourir votre nature terrestre. On voit verset 3, vous êtes mort. Ensuite, verset 5, faites mourir. Pourquoi, si on est mort une fois, il faut faire mourir encore? C'est comme si on est porté à descendre de la croix, je ne sais pas trop. On est mort spirituellement, mais on est porté à reprendre notre vieille vie des fois. On a un combat avec ça, OK? Donc, c'est comme pas acquis. Moi, j'aurais aimé, là, mort avec Christ, puis aucune tentation, ressuscité. Oh, toujours penser aux choses de Dieu. Ça serait fun. Mais on est encore sur la terre, on est sujet à la tentation, aux épreuves. Et donc, même si on est mort avec Christ, on est porté à vouloir reprendre cette ancienne vie-là. C'est pour ça qu'il y a un processus ici. Faites mourir votre nature terrestre. Puis là, il met toute une liste. L'inconduite, l'impureté, on l'a lu tout à l'heure. Les passions, les mauvais désirs et la cupidité. Je reviens avec ça, on l'a cité au début, qui est une idolâtrie. Supposément, je vais retrouver mes notes, OK. Ici, il y a mourir. C'est un mot qui est fort, pareil. Hein. Il y a deux semaines, Simon nous a parlé de couper, parler du péché. Il dit, si ton œil, c'est une occasion de chute, arracher ou couper la main, c'est raide. Faites mourir votre nature terrestre. Pourquoi il dit pas, faites attention, mes enfants, de ne pas tomber. Non, c'est la mourir. C'est une question de vie ou de mort. Supposément, je m'en vais dans une excursion, marche, un endroit au Yukon où il y a des ours grizzlies. Je veux les voir, les grizzlies, j'ai jamais vu ça. Sauf que ça mange du monde. Et j'ai apporté mon poivre de Cayenne puis un fusil si jamais il manque de poivre. Mais comme de fait, j'en vois un, deux même, mais il y en a qui se sauvent, puis l'autre, il est plus amical au début, il s'approche. Mais là, il approche, mais avec les dents, puis là, il se lève les pattes, puis là, hop, le poivre de Cayenne, une petite shot de poivre, fait que là, il s'en va. Mais il a vraiment faim, l'ours. Il trouve que je sens bon. Fait que là, il revient. Puis encore le poivre de Cayenne, il s'en va, mais là, j'ai plus de poivre. Donc, j'ai essayé, j'ai résisté, OK? Mais lorsqu'il revient, lorsqu'il veut me manger encore, vous êtes obligé de le tuer? C'est lui ou moi? Puis là, j'ai apporté mon fusil, heureusement. Donc, l'ours s'en met sur moi pour me manger, puis là, ben, je trouve, j'ai jamais tiré avec ça, mais j'ai pas le choix. Puis je n'entends pas tuer un ours, mais qu'est-ce que tu veux? C'est lui ou moi? Bang! L'ours, il tombe. OK? Il l'a tué. Donc, c'est un peu ça, faites mourir. C'est pas juste éloigner temporairement, ça va revenir. Ça va revenir. Le faire mourir, même si ça ne me tente pas. Donc, couper complètement. Donc, pour résister à cette tentation-là, remplacer les idoles, il faut aussi mettre notre confiance totale en Dieu. Confiance totale dans ce qu'il a dit, dans sa parole. Et Jésus, lorsqu'il a résisté au diable, les trois fois, il a cité la parole de Dieu. Et Jésus n'avait pas une connaissance uniquement intellectuelle. Jésus a une connaissance de la personne de Dieu. Et il savait que celui qui avait dit ça, il disait vrai. Donc, il pouvait s'appuyer à 100% sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est pas juste un livre. C'est une Bible, c'est dans la Bible. Mais est-ce qu'on fait confiance à 100% à ce que Dieu a mis dedans, à ce qu'il nous a écrit? Une autre citation de M. Tim Keller, il dit, « Nous devons savoir et être certains que Dieu nous aime et nous chérit tellement et qu'il fait ses délices en nous, de telle sorte que nous pouvons reposer nos cœurs en lui sur notre valeur personnelle et notre sécurité, et pour qu'il soit au contrôle de tout ce qui peut arriver dans la vie. » Donc, il nous donne sécurité, valeur. C'est lui qui est au contrôle de tout ce qui arrive, même si ce qui nous arrive, on n'aime pas ça. On voudrait le changer. Donc, la seule façon de se libérer de l'influence des faux dieux dans nos vies, c'est de se tourner vers le vrai Dieu, le seul Dieu qui doit être adoré et qui récompense ceux qui l'adorent, alors que les autres idoles ruinent ceux qui courent après. Les autres idoles sont mensongères. Pour remplacer une idole, on a vu que... Parce qu'une idole, c'est attirant. Donc, il faut que Dieu soit attirant aussi. Donc, je dois me réjouir en lui. Donc, il doit procurer ma joie. Donc, les faux dieux me donnent une joie et un plaisir temporaire et sont accessibles sur la terre et facilement accessibles, ces faux dieux-là. C'est pour ça qu'on peut les prendre. Mais le résultat est là. On n'est jamais comblé, jamais satisfait. On est dans le péché. Se réjouir en lui. Supposément, si je réalise vraiment à quoi j'ai échappé. Tu sais, je me fais enlever, puis quelqu'un vient me défendre, me libérer. Hey, je suis content. Quelqu'un m'a libéré, m'a sauvé. Beaucoup de joie. Mais Dieu m'a sauvé de l'enfer, des griffes du diable. On le sait, ça, depuis longtemps. On dirait qu'à un moment donné, on s'est réjoui au début, mais à un moment donné, on tient pour acquis ce salut-là. Donc, réaliser à quoi j'ai échappé. Revenir avec ça. C'est pour ça que Jésus voulait qu'on prenne le pas du Seigneur, pour se rappeler. Okay? Et l'apôtre Paul, dans Philippiens 4:4, il disait, réjouissez-vous dans le Seigneur, puis il dit, je le répète. Donc, c'était vraiment important, réjouissez-vous. Il ne dit pas dans les circonstances, il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. OK? Habituellement, on n'est pas débarrassé d'un faux Dieu pour de bon. Pas encourageant. Ça va revenir. C'est pour ça que Paul il disait, faites mourir votre nature terrestre. Ça va revenir, les passions, les désirs de s'enrichir, d'être important, etc. D'être quelqu'un, d'être aimé. Ça va revenir et c'est la lutte de votre vie. Je ne vous mets pas ça rose ce matin. C'est Larry Crabb qui écrivait. Il disait que la lutte de sa vie, c'était de toujours comprendre l'amour de Jésus-Christ pour lui. Plus il connaissait l'amour de Jésus pour lui, plus le reste, là, ça rentrait en place. Et plus Dieu était grand. Et c'était la lutte de sa vie. C'était un intellectuel de haut niveau, mais c'était ça qui était important. Sa relation avec Dieu. C'est toujours avec ça qu'il fallait qu'il lutte. Parce que sans ça, les problèmes de la vie, les inquiétudes, ça le minait. Puis il y avait beaucoup de problèmes aussi. Mais le fait qu'il soit accroché à Dieu, tout son cœur, ça le gardait sécure. Donc, c'était vraiment la lutte de sa vie. Et c'est la lutte de ma vie, de votre vie, de rester accroché à Dieu. Il y a des moyens, l'étude de la parole, prier, écouter ce que vous écoutez là, écouter des messages sur Internet, vous pouvez les enregistrer, les écouter dans votre auto. Nous avons besoin de nous nourrir parce que on digère qu'est-ce qu'on mange. Si j'ai un rapport, puis ça goûte les piments, ah, j'ai mangé des piments avant hier, pas avant hier, mais à midi. Donc, on digère qu'est-ce qu'on mange. Et si c'est de la musique qui n'est pas celle de Dieu, si on lit des livres qui ne sont pas de Dieu, ça ne veut pas dire de ne pas lire un livre non chrétien, mais plus on lit des choses qui nous nourrissent sur la vie spirituelle, ça va être plus facile. Ça va être plus facile. Ça ne vient pas tout seul. C'est pas nous qu'on le produit. Puis prions, demandons à Dieu qu'il nous aide à le produire. Peut-être que vous avez réalisé ce matin qu'il y a quelque chose qui prend la place de Dieu dans votre vie. Dieu est en deuxième, peut-être en troisième. Donc, pour résumer, c'est... Vous pouvez dire, ouais, ben, c'est vrai ce que tu dis, ben, je le sais, mais... Puis je le confesse. Oui, c'est péché, Dieu... Mais c'est plus fort que moi. Plus fort que moi, je suis pas capable. Donc, si je vous dis, laissez tomber les mauvais désirs, l'inconduite, puis ça, l'impureté, je vous apprends rien de nouveau, vous le savez déjà. Hein? Vous êtes accro à quelque chose, vous le savez déjà. Si je cogne sur le tout, vous allez dire, vous allez partir d'ici encore, plus coupable. Donc, on a tous nos luttes, nos tentations, nos difficultés, en fonction de notre passé, en fonction de notre personnalité. Moi, j'ai pas de misère avec le contrôle. Mais j'ai connu des gens, eux autres, qu'il fallait qu'ils contrôlent. Le personnel, contrôler. Moi, je n'ai pas besoin avec ça. Moi, je veux être aimé. Ah, c'est le contraire. Donc, on a toutes nos luttes différentes. Donc, confesser à Dieu cela et lui dire, je ne suis pas capable de changer, c'est plus fort que moi. Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours. Il venait à notre secours pour nous sauver. On ne pouvait pas se sauver de nous-mêmes. Hein, il est venu. Et on pense que Jésus est venu nous sauver là, puis c'est fini. Là, on vit notre vie, puis quand tu vas revenir, ah, on va apparaître avec lui dans la gloire. Donc Jésus doit nous secourir tout au long de notre vie. Crier à Jésus, « J'ai besoin de toi. » Le juste vivra par la foi. Donc, c'est la marche qui est importante. Donc, prier à Jésus, « Viens mon secours, prends toute la place dans ma vie, je te la donne, je te la redonne, je te l'ai déjà donnée, je te la redonne. » Et on a besoin de se reconsacrer de temps en temps dans notre vie. C'est un peu drôle, hein? On est sauvé, tout feu, tout flamme, donné, ça descend. « Oh Seigneur, oups, là, je me suis sûr que je suis en train de m'éloigner. Je me consacre à toi, Seigneur. Prends la place dans ma vie, je te donne le contrôle. On décolle. » Maintenant, ça passe. « Oups, on est encore éloigné du Seigneur. » Vous êtes comme moi. Ben, je ne sais pas. Peut-être juste moi qui ai ça, là. Mais, puis quand on s'éloigne du Seigneur, on ne s'en rend pas compte. Je dirais, plus on est loin, moins on s'en rend compte. Plus on est loin, moins on s'en rend compte. C'est ça. Donc, demandons au Seigneur qu'il nous aide à reconnaître ses faux dieux et lui dire, « Seigneur, je ne suis pas capable. Prends la place. Révèle-toi à moi. Seigneur, je veux goûter à ton amour. » Goûter, on peut dire goûter le vin du ciel. Depuis, c'est Ralph Charis qui disait ça. Il disait, « Nous avons goûté le vin du ciel, on ne peut plus s'en passer. » Et l'apôtre Paul avait vu le monter jusqu'au troisième ciel. Il ne pouvait pas s'en passer. Nous, on n'est pas été jusque-là encore. Mais on a la parole de Dieu qui nous révèle des choses. Fais-moi goûter à ton amour, à quel point tu m'aimes. Et Dieu veut qu'on ait avec lui une relation vivante, je dirais aussi vivifiante, qui va nous transformer. Donc, je ne veux pas mettre sur vos épaules un fardeau, vous sentir coupable, moi j'ai telle affaire dans ma vie. J'en ai moi aussi des bébites, mais c'est de les remettre à Jésus. Je ne suis pas capable, viens à mon aide, fais-le. Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il le dit dans un contexte d'évangélisation, mais je crois qu'on peut l'appliquer aussi à notre marche. Si vous voulez, on va prier pour conclure. Notre Dieu, on veut te remercier pour ces choses tirées de ta parole qui nous exhortent ce matin. Notre Dieu, nous avons tous des faux dieux dans nos vies, des péchés sur lesquels nous avons de la difficulté, qui sont plus grands que nous. Et notre Dieu, on te confesse, mais on te dit aussi qu'on n'est pas capable de s'en débarrasser de nous-mêmes. Ça revient tout le temps, et on se sent coupable. Notre Père, notre Jésus, au secours. Viens à notre aide. Seigneur, remplace ces choses-là par ton amour, par ta personne. On te prie, Seigneur, d'être sur le trône de nos vies, d'être celui à qui on veut regarder les choses d'en haut, tout ce que tu as fait pour nous, et notre Dieu soit vivant dans nos vies. Merci Seigneur pour le salut, merci d'être avec nous tous les jours jusqu'à ce que tu reviennes. Et on prie le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup.